Ainsi se termine notre voyage dans l'Odyssée du rythme. Encore merci.
Bonjour à tous les auditeurs, merci de syntoniser le 107,9 CILS FM à Victoria. On a 15 degrés actuellement au centre-ville avec un ciel nuageux. C'est Alexis Gagnon au micro. Bienvenue dans votre rendez-vous info quotidien, le débrief qui commence tout de suite avec les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. J'enchaînerai immédiatement dans quelques minutes avec la météo détaillée et ce sera suivi du bulletin des Nations Unies et de bien d'autres infos internationales, nationales et provinciales. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. La population canadienne pourra se prononcer sur le projet de révision du guide alimentaire canadien. La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a annoncé que Santé Canada a commencé à réviser le guide pour qu'il tienne compte des dernières découvertes et mises à jour. L'annonce a été faite au cours du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire. Santé Canada lance ainsi une consultation auprès des Canadiens qui se déroulera jusqu'au 8 décembre. Le gouvernement a déclaré vouloir déterminer la façon d'offrir des recommandations alimentaires adaptées aux besoins de la population du pays. Stéphane Dion a rencontré lundi à Ottawa le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Péter Szijjártó. Le ministre canadien des Affaires étrangères et le ministre hongrois ont marqué le 60e anniversaire de la Révolution hongroise de 1956. Il est bon de noter qu'à l'époque, le Canada avait accueilli 38 000 réfugiés hongrois suite à cet événement politique. Ils ont parlé du passé commun du Canada et de la Hongrie. Ils ont déclaré qu'il y a des liens étroits entre leurs peuples, tout en soulignant que la prospérité, l'inclusion et la sécurité internationale sont des dossiers importants pour leurs pays respectifs. YWCA Canada vient de lancer son mémoire à travers sa campagne « Toi pour elle ». Le document tient compte des femmes et des filles dans une stratégie nationale sur le logement. L'organisme demande également que la stratégie sur le logement améliore l'accès au logement abordable et sécuritaire pour les femmes. Le YWCA veut également que les programmes et les services abordant l'itinérance des femmes et des filles jouissent d'un appui du même genre. Anne Dechter, directrice des politiques publiques de YWCA Canada, a déclaré que le manque d'analyse basée sur le genre peut devenir une question de vie ou de mort. L'opération Spartan Warrior 2016 s'est enclenchée lundi. Il s'agit d'un entraînement militaire mené par le Canada qui a lieu jusqu'au 16 novembre au large de la côte est de la Nouvelle-Écosse, le long de la côte est de l'Amérique du Nord, aussi loin que les Bahamas. L'exercice vise la préparation globale d'un déploiement dans le cadre de missions en mer. C'est ce jeudi à Bruxelles, en Belgique, qu'aura lieu la cérémonie pour la signature du pacte de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Et même si la Belgique a déclaré ne pas être en mesure de répondre aux exigences, le Premier ministre Trudeau maintient que la cérémonie se déroulera comme prévu. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déclaré sur son compte Twitter qu'ensemble avec le Premier ministre Justin Trudeau, nous pensons que le sommet de jeudi est toujours possible et il a encouragé toutes les parties à trouver une solution. Politique américaine, eh bien, un sondage ABC News révèle que 55% des femmes donnent leur vote à Hillary Clinton, 35% à Donald Trump. Mais les ratés de l'homme d'affaires ne s'arrêtent pas là. Donald Trump éprouve également des difficultés pour ce qui est du vote blanc. Le milliardaire obtient 47% de cette tranche de la population américaine. En comparaison, le républicain Mitt Romney avait obtenu dans la défaite 59% en 2012. D'après une étude du Conference Board du Canada, la réduction de 20% de l'apport calorifique d'ici 2025 devra aller de pair avec l'industrie des boissons rafraîchissantes. Le board estime que l'industrie devra y mettre du sien pour que le but soit atteint. En 2014, les Canadiennes et Canadiens ont consommé en moyenne 142,5 calories par jour, provenant notamment de boissons gazeuses. Scott Bryson, président du Conseil du Trésor, se joint aujourd'hui à la commissaire à l'information Suzanne Legault et à la professeure Mary Francoli de l'Université Carleton à Ottawa pour une discussion sur l'accès à l'information et la transparence au sein du gouvernement. La discussion abordera la demande du premier ministre Trudeau à l'endroit de ses nouveaux ministres de relever la barre en matière d'ouverture et de transparence au sein du gouvernement. Au sport, au hockey, hier dans la Ligue nationale, victoire de Montréal 3-1 contre Philadelphie. Le Canadien n'a toujours pas perdu cette saison en temps régulier. Et victoire en prolongation de Calgary 3-2 contre Chicago. Ce soir, les Flames seront à Saint-Louis pour affronter les Blues, Winnipeg à Dallas et Vancouver recevra Ottawa. Baseball majeur, eh bien, début ce soir de la 112e série mondiale. Les Cubs de Chicago affronteront les Indians à Cleveland. NFL au match du lundi soir, victoire facile de Denver 27-9 contre Houston. Et début ce soir de la saison 2016-2017 de la NBA. Parmi les matchs qui seront à l'affiche, notons entre autres San Antonio à Golden State. Les Raptors, eux, entameront leur saison demain en recevant Détroit.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM tous les jours à 16h du lundi au jeudi. On est maintenant dans le bloc météo. On a 14 degrés sur Victoria. C'est 14 du côté du campus de l'Université de Victoria. C'est 16 degrés dans le port de Victoria. Et plus haut, à proximité de Sydney, on a 14 degrés à l'aéroport de Victoria. Pour les prochaines heures, c'est un mélange soleil-nuage. En soirée, ça demeure à peu près identique, généralement nuageux avec un minimum de 8. Pour demain, mercredi 26 octobre, 12 degrés avec de la pluie. Ça se poursuit en fin de journée et en soirée demain, mercredi. Et le scénario se répète au cours des prochains jours. C'est vraiment une séquence de longue durée avec du temps maussade. 27, 28 et 29 octobre, c'est à peu près identique dans le portail météo.gc.ca. On a un mercure qui oscillera entre 14 et 15 degrés et la pluie sera au rendez-vous. Les probabilités varient, mais c'est généralement autour de 60% de probabilité d'averse au cours des prochains jours et ça se poursuivrait même si l'on se fie aux projections les plus étendues jusqu'au lundi 31 octobre. Donc il faut s'armer de courage. La météo va être maussade au cours des prochains jours. On s'en va aux nouvelles des Nations Unies. Tout de suite, on se retrouve pour les nouvelles provinciales juste après, dans une dizaine de minutes.
Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec en titre l'Irak, avec des exécutions à large échelle signalées à Mossoul et l'OMS qui aide les autorités à se préparer à une attaque chimique. Ban Ki-moon appelle le Conseil de sécurité à faire plus pour intégrer les femmes au maintien de la paix. Enfin, en dossier, retour sur une année meurtrière pour les réfugiés et migrants en Méditerranée. L'actualité, c'est d'abord l'Irak où une centaine de personnes auraient été exécutées par les djihadistes du groupe État islamique à Mossoul. Ces allégations, qui sont encore au stade préliminaire, ont été reçues par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui précise que ces atrocités auraient été commises par Daesh la semaine dernière quand les forces irakiennes progressaient vers Mossoul. La correspondance d'Alpha Diallo à Genève.
À ce stade des enquêtes, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme insiste sur le fait que ce sont encore des rapports préliminaires et difficilement authentifiés. Mais ce sont tout de même des informations préoccupantes qui témoignent des atrocités que commettent les djihadistes Daesh en Irak. Les services du Haut Commissaire Zaïd continuent de recevoir des rapports sur des civils utilisés comme boucliers humains par l'État islamique dans la région de Mossoul. Il y a également des indications sur plus d'une centaine d'exécutions extrajudiciaires. Parmi ces incidents, il y a 15 civils qui auraient été tués à Safina, à 45 km au sud de Mossoul. Le 19 octobre, 6 personnes auraient été battues, attachées à un véhicule et tirées dans ce même village. Le lendemain, non loin de là, les corps de 70 civils ont été retrouvés, criblés de balles. Samedi, toujours au sud de Mossoul, 3 femmes et 3 filles ont été abattues. Et dimanche dernier, 50 anciens policiers auraient été tués par l'EI près de la ville contrôlée par les djihadistes. Le Haut Commissaire a enfin dénoncé l'évacuation forcée de centaines de familles de déplacés la semaine dernière de la région de Kirkuk par les forces kurdes. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Sur place en Irak, l'Organisation mondiale de la santé se mobilise pour venir en aide aux personnes qui pourraient fuir Mossoul, moyennant notamment le déploiement de cliniques mobiles à proximité de la ville. Selon les estimations, 200 000 personnes pourraient avoir besoin de services de santé d'urgence et 50 000 enfants auront besoin d'être vaccinés, aucun vaccin n'ayant été administré dans la ville ces deux dernières années. 4 000 femmes pourraient aussi avoir besoin d'assistance lors d'accouchements compliqués. À la demande des autorités irakiennes, des équipes de l'OMS mène par ailleurs des formations pour faire face à une éventuelle utilisation d'armes chimiques. Le détail avec Tarek Yasharevitch, porte-parole de l'OMS.
La semaine dernière, on a conclu une série de formations pour les travailleurs de santé en tout ce qui est le traitement des victimes en masse au cas où il faut avoir apporté une aide à un grand nombre de personnes, mais aussi une formation comment traiter les gens et comment décontaminer les personnes qui ont été atteinte des produits chimiques. Cette formation a été demandée par les autorités irakiennes parce qu'on pense qu'il y a un risque, même s'il n'est pas très grand, il existe un risque que les substances chimiques pourraient être de manière improvisée utilisées comme armes.
Ce mardi matin au siège, le secrétaire général a appelé le Conseil de sécurité à redoubler d'efforts pour inclure la question des femmes dans les mandats de maintien de la paix, moyennant notamment la collecte d'informations sur les pays en conflit, en plaçant les femmes et les filles au centre des travaux des opérations de maintien de la paix, en écoutant les groupes de femmes de la société civile et en assurant le financement de ces activités. Lors d'un débat sur la résolution 1325 qui concerne les femmes, la paix et la sécurité, Ban Ki-moon a aussi engagé les 15 à veiller à la diversité des processus de négociation. Car malgré plus de 15 ans de plaidoyer, a-t-il déploré, rien n'a bougé dans ce sens. Or, un accord de paix a 35% de chances de plus de durer au moins 15 ans si les femmes se trouvent à la table des négociations. On écoute Ban Ki-moon.
I'm ashamed of the many atrocities.
J'ai honte des nombreuses atrocités qui continuent d'être commises à l'encontre des femmes et des filles, y compris par certains de nos propres casques bleus. L'exclusion politique continue des femmes me met en colère. Les processus de paix, les programmes humanitaires et les plans de consolidation de la paix les ignorent et échouent à répondre à leurs besoins et à protéger leurs droits. Regardez l'image des négociations de paix en Syrie ou au Yémen. Il y a peut-être une femme à la table ou dans l'une des délégations. Cela est entièrement représentatif de la situation dans son ensemble. Et tout cela se fait avec en toile de fond des femmes et des filles victimes d'inégalités qui sont aggravées par les conflits et qui sont prises pour cible par des groupes extrémistes violents comme Daesh ou Boko Haram ou des crimes particulièrement violents.
Et puis en bref, le reste de l'actualité avec Jérôme Longuet.
Au Pakistan, les Nations Unies condamnent l'attentat contre une académie de police à 20 km à l'est de la ville de Quetta, capitale du Baloukistan. L'ONU parle d'une attaque inhumaine et injustifiable. Selon la presse, au moins 60 personnes ont péri lundi soir et plus de 120 personnes ont été blessées. L'attaque serait imputable à l'État islamique et aux talibans pakistanais. Le Programme alimentaire mondial, fortement préoccupé par la détérioration de la sécurité alimentaire et la croissance des taux de malnutrition infantile au Yémen, surtout dans les gouvernorats difficiles d'accès comme celui d'Adja. La semaine dernière, grâce à un rare répit dans les combats, 150 000 personnes ont pu être assistées dans le gouvernorat de Taiz. Sur place, le PAM estime que des millions de personnes ne vont pas pouvoir survivre sans aide extérieure. Enfin début cette semaine des premiers retours volontaires de réfugiés du Myanmar en provenance de Thaïlande, une initiative soutenue par les gouvernements des deux pays, aidée par le PAM, le HCR et l'OIM. Même si les premiers chiffres restent modestes, l'objectif est d'ouvrir la voie au retour de douzaines de personnes, ce qui pourrait résoudre l'une des plus anciennes crises humanitaires en Asie.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Plus de 3700 réfugiés et migrants ont péri en Méditerranée depuis le début de l'année, soit presque autant que pendant la totalité de 2015, année durant laquelle trois fois plus de personnes avaient tenté la traversée. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est de loin le pire bilan jamais enregistré en Méditerranée. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à William Spindler, porte-parole du HCR à Genève.
Ces chiffres sont très alarmants. On est en octobre 2016 et déjà on a arrivé au même nombre de personnes qui sont mortes dans cette route en essayant d'arriver en Europe. 3700 personnes sont décédées, le même chiffre plus ou moins que l'année dernière. Et si on prend en considération qu'on est qu'en octobre, on n'est pas fini 2016, et aussi que l'année dernière, il y avait 1 million de personnes qui ont fait la traversée, et cette année, la chiffre est autour de 320 000. On peut dire que proportionnellement, le nombre des fatalités sont 3 fois plus importants cette année que l'année dernière. Et l'année dernière était déjà l'année la plus meurtrière dans l'histoire de la Méditerranée.
Et pour bien comprendre le nombre de ces décès, c'est sur 269 arrivées, il y a un décès.
Tout à fait. Si on prend toute la Méditerranée en totalité, pour chaque 269 personnes qui arrivent, une personne meurt. Mais si on prend seulement la route entre la Libye et l'Italie, la route la plus dangereuse, là, la chiffre est beaucoup plus élevée. Là, pour chaque 47 personnes qui arrivent, une personne meurt.
Y a-t-il des raisons particulières qui justifient cette augmentation du nombre de décès dans ces routes méditerranéennes qu'empruntent les migrants et les réfugiés?
Il y a un nombre d'explications. La météo, c'est aussi un facteur. Mais dans notre point de vue, le facteur principal, c'est un changement dans les modus operandi des passeurs. Ils utilisent de plus en plus des embarcations qui ne sont pas en bon état. La plupart de ces embarcations n'arrivent pas à faire la traversée jusqu'en Italie. Ils arrivent jusqu'à quelques kilomètres de la côte de l'Afrique du Nord. Et les migrants et les réfugiés attendent d'être sauvés par les services de sauvetage. Mais le fait qu'ils sont de plus en plus nombreux met beaucoup de pression aux services de sauvetage. Et ils ont de plus en plus de difficultés à sauver tout le monde, avec toutes les meilleures intentions et tout le travail très, très important fait par les services de sauvetage. On continue à avoir des fatalités en Méditerranée. Et ça, c'est inacceptable.
Face à ces drames à répétition dans ces routes méditerranéennes, que recommande le HR par rapport au sauvetage, par rapport au sort de façon générale des migrants et des réfugiés?
On ne peut pas avoir cette situation de clandestinité où les personnes risquent leur vie pour trouver la sécurité. Il faut essayer de trouver des voies légales pour les réfugiés les plus vulnérables, de traverser la mer Méditerranée, d'arriver en Europe et dans des autres endroits dans le monde d'une manière légale et sûre. En même temps, il faut aussi trouver des moyens pour les migrants économiques d'avoir une possibilité d'arriver en Europe d'une manière aussi légale. Il faut s'attaquer à la clandestinité, mais non, c'est un business pour les passeurs qui organisent tous ces voyages. Et les personnes continuent à mourir. C'est très important que les gens ont la possibilité de voyager d'une manière légale et sans risquer leur vie de cette manière.
Et c'est avec William Spindler que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Une édition à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. On change d'échelle sur la map monde. On va passer de l'international au provincial. Chez nous, en Colombie-Britannique, 25 personnes hospitalisées après un atterrissage d'urgence à Vancouver. C'est une nouvelle que rapporte Radio-Canada aujourd'hui et de nombreux autres médias d'ailleurs. Un Airbus A380 de British Airways a effectué un atterrissage d'urgence tard hier soir à Vancouver après que des membres de l'équipage eurent ressenti un malaise. 25 personnes ont été hospitalisées. Le vol BA-286 transportait 400 passagers de San Francisco à Londres. Il s'est posé vers 23h30, heure du Pacifique. Les malades ont été soignés dans 3 hôpitaux de la région de Vancouver, mais ils avaient tous quitté ces établissements quelques heures plus tard, ont indiqué les régies de la santé Fraser. Fraser et Vancouver Coastal. De premières informations faisaient état d'une inhalation de fumée comme cause des malaises, mais la régie Vancouver Coastal confirme que ce n'était pas le cas, sans donner de précision supplémentaire. Le vol de San Francisco avait été dévié vers Vancouver après que des membres de l'équipage se soient sentis malades, a déclaré le porte-parole de British Airways. Nous enquêtons sur les causes du problème, a indiqué British Airways. Du côté de Victoria, on reste dans les transports, mais on parle cette fois de transport maritime, de navigation maritime. Un navire et 22 marins bloqués au large de Victoria. C'est une nouvelle que nous rapporte également le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Un porte-conteneurs, comme on en voit de nombreux passer dans le détroit Juan de Fuca, entre le nord de l'État de Washington et l'île de Vancouver. Donc, un porte-conteneurs qui compte 22 membres d'équipage demeure coincé au large de Victoria cette semaine après l'effondrement financier de l'entreprise qui exploite ce navire. Le Anjin Vienna, un porte-conteneur de 279 mètres, est pris dans un vide juridique depuis la fin du mois d'août lorsque son propriétaire, la compagnie coréenne Anjin Shipping, a été mis sous séquestre. Le navire jumeau du Anjin Vienna, le Anjin Scarlett, se trouvait lui aussi au large du littoral britanno-colombien du côté de Prince Rupert au moment de l'effondrement financier de cette entreprise. Donc les deux porte-conteneurs, nous rapporte Radio-Canada, ont été saisis le mois dernier en raison de factures impayées de plusieurs millions de dollars. Les autorités indiquent que le navire Anjin Vienna, qui est ancré au point d'ancrage Constance Bank, juste au sud de Victoria, donc on peut le voir depuis la promenade de Dallas Drive, par exemple, on peut le voir depuis le brise-lame qu'on appelle le breakwater. C'est à peine 2 ou 3 kilomètres juste au sud de Victoria, dans le détroit. Donc, les autorités indiquent que ce bâtiment, ce navire, ne présente aucun risque pour la sécurité du public actuellement. Les autorités ne précisent toutefois pas quand l'affaire juridique sera résolue. Donc, c'est ce que rapporte Radio-Canada aujourd'hui. Et si des marins francophiles ou francophones à bord du navire Anjin Vienna nous écoutent actuellement, ils sont un petit peu séquestrés par cette situation, ils sont prisonniers de leur navire. On les salue chaleureusement, bien sûr, et on leur souhaite bon courage. On reste dans la région dans la province, bien sûr. On passe à une nouvelle qui touche Vancouver. Je vous en ai glissé un petit mot hier, puisque le portail de CBC en touchait mot. On parle de ce sommet international sur le logement qu'accueille la métropole britanno-colombienne Vancouver. Des experts internationaux du logement se réunissent cette semaine à Vancouver pour discuter de possibles solutions à la question des logements abordables. La conférence Regarding Address Housing se penche sur les difficultés que rencontrent les résidents qui cherchent des logements abordables et sécuritaires dans des villes telles que Vancouver, Toronto, San Francisco, Sydney et Londres, toutes des métropoles qui connaissent une augmentation des prix de l'immobilier. Nos villes attirent tellement de gens, elles sont très agréables et nos économies sont florissantes, alors nous connaissons une croissance qui surpasse notre capacité d'augmenter l'approvisionnement, a commenté le maire de Vancouver, Gregor Robertson, en marge de cette conférence hier lundi. Les logements disponibles ne sont pas nécessairement accessibles pour les personnes à faible et moyen revenu, a-t-il souligné. Nous construisons beaucoup plus de logements locatifs que dans les dernières décennies, a-t-il dit, mais c'est insuffisant pour faire face à la crise. Le maire a indiqué que Vancouver envisage l'option de développer des logements modulaires pour contrer le problème de l'itinérance, le phénomène des sans-abri. L'hiver prochain, des maisons mobiles modulaires pour les sans-abri et les personnes à risque de le devenir ouvriront leurs portes sur la rue Main, près de l'avenue Terminal. C'est ce que signale la mairie de Vancouver, justement à l'occasion de ce sommet international sur le logement qui se tient jusqu'au 29 octobre. Une nouvelle qui concerne plutôt directement la Colombie-Britannique, mais aussi l'ensemble du pays. Il est question de marijuana thérapeutique Shoppers Drug Mart, la chaîne de pharmacie pan-canadienne fait une demande de distribution de marijuana thérapeutique. C'est rapporté aujourd'hui dans la presse canadienne. Shoppers Drug Mart a annoncé avoir fait une demande afin de devenir distributeur de marijuana thérapeutique. Une porte-parole de l'entreprise a expliqué par courriel que la chaîne de pharmacie, qui est connue au Québec, soit dit en passant sous le nom de Pharmaprix, a déposé une demande auprès de Santé Canada afin d'être désignée productrice autorisée de marijuana thérapeutique, mais seulement pour la distribution du produit. Tammy Smitham a précisé que Shoppers Drug Mart n'avait aucunement l'intention de produire du cannabis. La demande est une exigence administrative afin de pouvoir distribuer de la marijuana médicinale thérapeutique. Cependant, même si la demande de Shoppers Drug Mart est approuvée, signale la presse canadienne dans cet article, la pharmacie ne pourra pas distribuer le produit dans ses magasins avant que le gouvernement ne modifie la réglementation entourant la marijuana médicinale. Sous le régime actuel, les patients au Canada ne peuvent acheter de la marijuana thérapeutique que s'ils passent directement par un producteur autorisé qui envoie le produit par courrier. On sait qu'ici en Colombie-Britannique, il y a notamment en Vancouver et à Victoria des boutiques, des dispensaires de marijuana qui sont tolérés et qui sont un petit peu dans la zone grise légale actuellement. Et on précise un petit peu plus loin que la porte-parole de Shoppers Drug Mart a affirmé que l'entreprise avait bon espoir de voir Ottawa mettre à jour les règles afin de permettre aux pharmacies de jouer un rôle dans la distribution de marijuana thérapeutique. Donc, c'est Shoppers Drug Mart qui a fait le premier pas. D'autres chaînes de pharmacies imiteront sans doute le geste au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Donc, le titre de cet article de la presse canadienne, Shoppers Drug Mart fait une demande de distribution de marijuana thérapeutique. Et je clôt ce bloc provincial avec un petit aide-mémoire sur la manifestation étudiante qui a eu lieu à Ottawa sur la colline parlementaire, donc à quelques mètres du Parlement, une manifestation étudiante qui s'opposait à l'oléoduc de la compagnie Kinder Morgan, le fameux oléoduc Trans Mountain. Donc des étudiants se sont fait arrêter hier. C'est encore dans les médias aujourd'hui. Il y a le portail rcinet.ca qui en parle avec un article intitulé « Ottawa, mobilisation étudiante contre l'oléoduc de la compagnie Kinder Morgan ». Donc rcinet.ca, c'est le portail de Radio-Canada International. On fait une petite pause musicale avec une formation qui s'appelle « Les Passagers ». On va écouter une pièce qui s'appelle « Chacun de nos pas ». On se retrouve dans 3 minutes et quelques pour les nouvelles du jour. À tout de suite. passagers dans l'émission Le Débrief avec la pièce Chacun de nos pas. Il est 16h30 si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 26 octobre. Bienvenue dans l'émission. L'info se poursuit dans Le Débrief. On poursuit tout de suite avec les nouvelles du jour. On commence avec une nouvelle qui nous provient de la presse canadienne. Justin Trudeau chahuté lors d'un sommet de jeunes syndicalistes. Justin Trudeau a été chahuté ce matin à Ottawa alors qu'il se livrait à une séance de questions et réponses. Lors d'un sommet de jeunes syndicalistes, le premier ministre devait se prêter à une entrevue devant la salle de quelques 400 jeunes travailleurs lors de cette réunion organisée par le Congrès du travail du Canada. On avait également prévu des questions de l'assistance. Dès son arrivée sur scène, une quinzaine de jeunes se sont levés pour lui tourner le dos, puis ont fusé plusieurs slogans, dont celui « Respectez vos promesses » qui a été répété le plus souvent. Les jeunes qui étaient dans la salle se sont surtout exprimés sur l'oléoduc Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. C'est un projet britanno-colombien, vous le savez, un projet d'expansion d'un pipeline déjà existant. C'est un pipeline qui triplerait sa capacité sa capacité de distribution et qui ferait augmenter sensiblement, considérablement même, le trafic des super pétroliers dans les eaux de Colombie-Britannique. Donc, cette question a été soulevée par les jeunes. Il a aussi été question dans les interventions de la salle de loi anti-briseur de grève, loi anti-SCAB, puisque c'était une réunion de jeunes syndicalistes. Évidemment, la question de la loi du travail a été soulevée. Et Justin Trudeau, concernant les critiques qu'on lui adressait à propos ce pipeline Trans Mountain, qui attend toujours sa réponse. Justin Trudeau a offert sa réponse habituelle, nous rapporte la presse canadienne, sur la responsabilité de mener, ouverture des guillemets, nos ressources vers de nouveaux marchés, fermeture des guillemets. Il a ensuite indiqué sa préférence pour les oléoducs comme moyen de transport des produits pétroliers et gaziers. Les pipelines, c'est moins dangereux que le rail pour l'environnement et pour les gens, a-t-il dit, rappelant l'accident de Lac-Mégantic survenu en 2013 au Québec. Je comprends les gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'exportation de pétrole, a insisté Justin Trudeau. Les gens qui ne veulent pas d'économie basée sur les carburants fossiles, mais nous en sommes pas encore là, a-t-il plaidé. Et la salle a tout de suite réagi en lui demandant pourquoi le Canada n'en était pas encore là, n'était pas encore capable de mettre de l'avant une économie verte, un plan énergétique basé sur les énergies vertes. Et à la fin de cette confrontation, dont la presse canadienne précise qu'elle aura duré environ 30 minutes, plusieurs personnes se sont mises à scander à nouveau « Respectez vos promesses ». Et le premier ministre Justin Trudeau a répondu qu'il avait l'intention de respecter ses promesses. « Continuez à me lancer des défis », a-t-il dit à l'Assemblée de jeunes syndicalistes. « Je vais garder mes promesses. Je m'y engage devant vous. Je m'y suis engagé auprès des Canadiens. Et c'est comme ça qu'on m'a élevé », a-t-il conclu en quittant la salle. Donc voilà pour cet article paru dans le portail de la presse canadienne, sur le fil de presse plutôt de la presse canadienne. Justin Trudeau chahuté lors d'un sommet de jeunes syndicalistes. Alors, ce qu'il faut rappeler à propos des promesses de sa campagne électorale, c'est qu'elles étaient au nombre de 340. Il y avait effectivement 340 promesses dans le programme de l'équipe libérale. Alors, certaines d'entre elles ont été remplies, d'autres ont été brisées. Mais pour satisfaire à toutes ces promesses, pour rencontrer toutes ces promesses, il faudra encore travailler. Et les jeunes de ce congrès l'ont fait remarquer à Justin Trudeau. Et on attend par ailleurs, bien sûr, la décision du gouvernement dans le dossier du pipeline Trans Mountain. On reste dans le fil de presse de la presse canadienne. On parle de sans-abri, d'itinérance, de sans-domicile fixe. si vous préférez, le titre de cet article « Itinérance des investissements fédéraux dans le logement abordable sont réclamés ». Un nouveau rapport sur l'itinérance propose de doubler les dépenses fédérales allouées au logement abordable dans les 10 prochaines années afin d'arriver à éliminer ce problème. Deux groupes, l'Observatoire canadien sur l'itinérance et l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, affirment que cette solution rendrait l'itinérance plus rare, plus brève et non récurrente. Donc, c'est la solution en question, bien sûr, c'est d'augmenter les dépenses fédérales allouées aux logements abordables. Le rapport en question publié au moment justement où est attendu le dévoilement de la stratégie nationale sur le logement promise par le gouvernement libéral. Le rapport recommande que les 22,6 milliards proposés par Ottawa pour les 10 prochaines années soient augmentés au montant de 43,8 milliards. Donc, à toute fin pratique, ce montant équivaudrait à $50 de plus par habitant annuellement, signale la presse canadienne. Le rapport souligne également que cette stratégie permettrait de mettre fin à un problème qui gruge chaque année 7 milliards à l'économie canadienne. Le gouvernement fédéral a déjà promis d'augmenter ses investissements dans le logement abordable, mais les deux groupes qui ont pondu ce rapport estiment que ces promesses ne vont pas encore assez loin. On peut citer quelques-unes des recommandations du rapport, comme le fait la presse canadienne. Donc, on recommande l'adoption d'un objectif national d'élimination de l'itinérance avec des résultats, des étapes et des critères clairs et mesurables. On recommande l'élaboration d'une nouvelle entente cadre fédéral, provincial, territorial qui définirait le leadership local concernant l'itinérance et l'investissement dans le logement. On recommande aussi la mise en place de stratégies ciblées qui répondent aux besoins des sous-populations prioritaires, dont les jeunes, les anciens combattants et les autochtones. Et finalement, on a aussi des recommandations comme l'entretien et l'élargissement du parc de logements abordables existants. Et on retrouve aussi la recommandation visant la création d'un crédit d'impôt pour le logement abordable. Donc voilà, c'est dans la presse canadienne. Itinérance des investissements fédéraux dans le logement abordable sont réclamés. Ça date de quelques jours, mais c'est encore tout à fait dans l'actualité. Et pour clore cette portion nouvelle du jour de l'émission d'aujourd'hui, en ce 25 octobre, je vous signale à propos du CETA, ce fameux accord de libre-échange dont vous parlait Denis dans son bulletin un petit peu plus tôt dans l'émission et dont je vous ai beaucoup parlé dans l'émission d'hier, lundi. Alors, à propos du CETA, je vous signale un dernier article, ça paraît dans le portail lesaffaires.com. Comment une région de Belgique a-t-elle pu bloquer un méga accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada? Point d'interrogation. Alors, cet article est intéressant. C'est dans un journal qu'on peut dire libéral, d'orientation libérale, sur le plan économique, bien sûr, et non sur le plan politique. Ça ne désigne pas une appartenance à un parti politique. Le journal a une orientation libérale, donc sur le plan économique. Et c'est assez objectif. On comprend dans cet article comment la Belgique, justement, a pu bloquer ce grand accord de libre-échange qui a été négocié pendant des années. Alors, on explique le mécanisme, le fonctionnement du système fédéral belge et le pouvoir qui revient à la Wallonie, qui est la région francophone de Belgique. Alors, on dissèque un petit peu le fonctionnement de cet État et c'est assez fascinant. Ça ouvre une lucarne, si vous voulez, sur le fonctionnement de l'Europe aussi plus largement. Donc, c'est dans le portail lesaffaires.com aujourd'hui et le titre de l'article « Comment une région de Belgique peut-elle bloquer un méga accord entre l'Union européenne et le Canada? » Si vous en avez pas encore assez entendu parler du CETA, faites-vous plaisir, cet article est pour vous. Ça vous permettra de comprendre un petit peu ce qui s'est passé au cours des derniers jours du côté de Bruxelles. On retourne en musique, on va écouter une formation qui s'appelle Caltar Bateau. Et c'est une pièce enregistrée live qui s'intitule Rouge Maladie. À tout de suite dans quelques minutes. Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, 16h42 si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 26 octobre. Bienvenue dans l'émission, c'est Alexis Gagnon en votre compagnie. Pour les 15 ou 16 prochaines minutes, on va passer à la revue de presse des éditoriaux. J'en ai repéré quelques-uns un peu partout sur la toile francophone pour vous. On commence avec un article paru dans le journal Le Droit, qui est un des grands journaux de la francophonie canadienne hors Québec. C'est un article qui est signé par le fiscaliste Alain Deneau, qui est aussi philosophe à ses heures. Il a signé plusieurs essais, dont un livre intitulé « Paradis fiscaux, la filière canadienne » et un autre essai intitulé « Une escroquerie légalisée ». On l'a vu dans certaines émissions, en interview, donner d'excellentes interventions sur l'évasion fiscale. Il avait été l'invité de Guillaume Lepage sur le plateau de Tout le monde en parle. Il y a de cela environ 2 ans, je crois. C'était une intervention très remarquée qui concernait les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux continuent, bien sûr, comme l'évasion fiscale plus généralement, d'être dans l'actualité. C'est un phénomène chronique. C'est un phénomène qui continue de saper l'énergie vitale des pays et l'énergie économique, si vous voulez, des différents pays. Les Panama Papers, ce printemps, l'ont encore une fois prouvé. Donc, je voulais vous lire quelques lignes de ce texte signé par Alain Deneau dans le journal Le Droit, et ça s'intitule « Les multinationales, un pouvoir sans contrôle, les paradis fiscaux et autres législations de complaisance que l'affaire des Panama Papers a contribué à faire connaître ne favorise pas simplement l'évitement fiscal de la part des grandes entreprises. Les paradis fiscaux permettent aussi à ces dernières de s'ériger comme des pouvoirs autonomes qu'aucune institution publique n'arrive à superviser convenablement. Les entreprises multinationales ainsi que les grandes organisations financières règnent en maître dans le cadre de la mondialisation économique du fait d'être administrées sur un mode morcelé. Amazon, Danone, McDonald's et Shell Oil ne constituent pas en droit des entreprises uniques, elles se présentent au contraire comme une myriade d'entités créées dans différentes législations du monde et, en cela, elles sont indépendantes en droit les unes des autres. C'est la raison pour laquelle on dit de ces entités qu'elles forment un groupe multinational. Elles peuvent s'échanger des factures pour des biens et services ou se prêter de l'argent. Le conseil d'administration d'une entreprise de ce type coordonne la façon dont chaque membre du groupe évolue et présente à la fin de l'année le bilan consolidé de toutes ces structures. Le caractère éclaté de la multinationale lui permet d'organiser des transferts de capitaux entre ses différentes composantes. Certaines d'entre elles sont créées dans les paradis fiscaux tels que le Panama, le Luxembourg, la Suisse, les Bermudes ou Singapour, où le taux d'imposition sur le revenu des entreprises est nul ou quasi nul et où presque aucune loi contraignante ne s'applique. L'intérêt pour une firme comme Starbucks, par exemple, ou encore Apple, est de confier à son entité sise dans un tel état les droits d'utilisation du nom et du logo du groupe ou encore l'administration d'un certain nombre de services de façon à l'autoriser à facturer ses recours aux autres composantes de la multinationale. Cette logique intrinsèque au capitalisme contemporain permet ensuite aux entreprises de se déployer telles des forces autonomes auprès des États et des populations. Elles ont des moyens sans fin pour mobiliser des firmes de lobbyistes et créer de grands médias de masse, spéculer sur les dettes des États et les monnaies nationales, influencer la valeur des cours relatifs aux matières premières, puis spéculer sur leur évolution, ainsi de suite, sans que les pouvoirs publics ne soient le reflet d'une volonté populaire réfractaire à ces grands oligopoles. Alors voilà, je vous ai lu les meilleures lignes de ce papier, de ce billet signé par Alain Deneau dans le journal Le Droit d'Ottawa en date d'aujourd'hui. Je vous recommande vivement cet article qui est très instructif, qui rafraîchit la mémoire sur le phénomène des paradis fiscaux. On se transporte dans les pages du Figaro, un média français qui propose une lettre d'opinion sur Justin Trudeau. Alors, cette lettre d'opinion a été acheminée par Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit public à l'Université de Sherbrooke au Québec. Et Guillaume Rousseau essaie de, si vous voulez, de son point de vue, bien sûr, d'ouvrir les yeux à ses amis européens sur le soi-disant progressisme du premier ministre Justin Trudeau. Alors, le titre donne le ton dès le départ. Ça s'intitule ainsi « Pour en finir avec le faux progressisme du premier ministre canadien Justin Trudeau ». C'est dans le journal Le Figaro, journal français de droite. Et je vous en lis quelques passages. La presse européenne, notamment française, fait régulièrement le panégyrique du premier ministre canadien Justin Trudeau. Alors, panégyrique, ça veut dire tout simplement un éloge excessif. La presse française, selon l'auteur, est tombée amoureuse de notre premier ministre. Alors, l'auteur essaie de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Derrière l'image véhiculée, écrit-il, se cache pourtant une triste réalité. Alors, il aborde tout d'abord l'idée de la parité homme-femme au cabinet des ministres de Justin Trudeau. La photo du conseil des ministres de Justin Trudeau projetait une belle égalité homme-femme, mais en y regardant de plus près, on constate que seuls des hommes sont responsables des ministères les plus importants, finances, trésor, économie, défense, sécurité, affaires étrangères et ressources naturelles. Plusieurs femmes ministres sont même placées sous la tutelle d'un ministre canadien dans le cabinet de Justin Trudeau, déplore l'auteur. Un ministère régalien, celui de la justice, a bien été confié à une femme, mais il faut savoir qu'au Canada, le ministère de la justice n'est pas aussi important. L'essentiel de l'administration de la justice ne relève pas du fédéral, de sorte que ce ministère est loin d'être aussi important que ne peut l'être le ministère de la Justice dans un État unitaire, comme la France, par exemple. Et plus loin, l'auteur revient sur le dossier de l'environnement. Et là encore, il veut apporter une note discordante dans le concert d'éloges là qui a été adressé à notre premier ministre en Europe. Pour ce qui est de l'environnement, écrit-il, le contraste entre l'image et la réalité est encore plus fort. Malgré sa prétention à combattre les changements climatiques, Justin Trudeau, qui s'est entouré d'un conseiller agissant aussi à titre de lobbyiste pour l'industrie pétrolière, Justin Trudeau défend l'exploitation du pétrole sale de l'Ouest canadien et vient d'approuver un projet visant l'exportation du gaz de schiste d'une valeur de 36 milliards de dollars. Et là, ici, on fait référence bien sûr au projet Petronas Northwest Pacific qui traverse la Colombie-Britannique. Vous le savez, c'est un projet, un gigaprojet qui finit sur le littoral nord de la Colombie-Britannique après un long parcours en pipeline et qui va causer une augmentation du trafic des pétroliers, bien sûr, et ainsi de suite. Donc, l'auteur signale l'approbation de ce projet qui est toute récente et il signale aussi que Justin Trudeau fait la promotion du traité CETA, le traité de libre-échange Canada-Europe, et souligne bien sûr que ce traité place le commerce au-dessus de l'environnement. Maintenant, côté démocratie et représentation démocratique, l'auteur rappelle que Justin Trudeau avait clairement promis une réforme du mode de scrutin lors de la campagne électorale de 2015. Eh bien, on le sait, si vous avez suivi l'actualité au cours des dernières semaines, il semble que le gouvernement libéral de Justin Trudeau soit en train de briser cette promesse. Ils ne procéderont pas à une réforme du mode de scrutin. C'est ce que semblent indiquer les récents propos du premier ministre. Alors, l'auteur écrit « Côté démocratie, en campagne électorale, M. Trudeau avait clairement promis une réforme du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour. Depuis, il recule sous prétexte que la volonté populaire d'obtenir une telle réforme était liée à l'impopularité du gouvernement précédent. Donc, plutôt facile comme pirouette, fait justement remarquer et observer l'auteur de ce texte paru dans Le Figaro. Et le texte se poursuit. Il mentionne bien sûr que les promesses faites aux Autochtones ont été plus ou moins bien tenues et plutôt moins que plus. Il y a plusieurs engagements du gouvernement Trudeau envers les Autochtones qui ont été rompus. Donc le texte de Guillaume Rousseau en fait état. Il y a aussi des passages sur le Québec et la question constitutionnelle qui plairont peut-être un petit peu moins aux lecteurs hors Québec, aux francophones qui sont en situation minoritaire. Il y a quand même de bons passages dans ce billet, dans cette lettre d'opinion qu'a publié Le Figaro. C'est sous la plume de Guillaume Rousseau. Il est professeur de droit public à l'Université de Sherbrooke. Voilà, on va clore cette revue de presse des éditoriaux. J'aurais pu encore vous parler du traité de libre-échange Canada-Europe, mais là, je sens que la coupe est pleine. On a vraiment exagéré. Si vous avez encore de l'appétit pour le CETA, je vous encourage à faire les recherches. On va en reparler, c'est certain, dans le débrief au cours des prochaines semaines. Donc, on va faire une petite pause musicale de quelques instants. On écoute les Frères Cueilleurs, une pièce qui s'intitule « Coucou les coucous ». Et on se retrouve dans quelques minutes pour le mot de la fin.
Aucun pays les genévriers.
No smoking allowed. Yeah. No smoking allowed. Yeah. Interdit de bouger le mobilier. Interdit de bouger le mobilier. No smoking allowed. Yeah. No smoking allowed. Interdit de bouger le mobilier. Interdit de bouger le mobilier.
Rien qu'une vie, je veux en profiter. J'aimerais pouvoir la rembobiner. Recheaker mes rêves enregistrés. Tant que les cas sortent du robinet. Je vais me reposer tant qu'à profiler. Veiller pour t'en réutiliser. Ça wave every day comme un surfer l'été. As-tu vu le dernier burn of the case? Maximum shout-out à SVC. On rêve de CP du VSOP. Amen.
No smoking allowed. No smoking allowed. Interdit de bouger le mobilier. Interdit de bouger le mobilier. No smoking allowed. No smoking allowed.
Tous les animaux sont pas permis, mais ça compte.
No smoking allowed. No smoking allowed.
Personne n'essaie de caller la police anyway.
No smoking allowed. Et quand vous tapez le mobilier, ça me provoque à payer la jumébrie. Ça fait que t'es né en pépite. Que jamais c'est pour voir la vérité. Et quand c'était pour toi, dans le loyer. No smoking allowed.
Ça fait que t'es né en pépite.
Chase long game baseball. Listen, you bring the king down. Face palm, cut to rap dude, cut to brag fool, cut to dick to stack loot. Yo, that's not true. Broke as fuck, I'm bobbing now. Bad luck, well, I'll be damned. I shoot hoops from Deuce Puss, man. I oof books, I'm raising hell. Two scoops, the couscous, beat the fruit loops, let me raisin' brand. Y'all know if it's flavored, man. Y'all know if it's flavored, man.
Y'all know if it's flavored, man.
Bouger le mobilier, non smoking allowed, non smoking allowed. Interdit de bouger le mobilier, interdit de bouger le mobilier, non smoking allowed.
Coucou les coucous, dans le débrief à 16h57, on va clore cette émission. C'est déjà tout pour le débrief. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés dans cette heure d'information à l'antenne de CILS FM 107,9. On a 15 degrés actuellement à Victoria, c'est dégagé en soirée, mais la pluie reprend demain. Je regardais le radar il y a quelques instants et il y aura de la pluie assez forte demain en début de journée, donc on va commencer la journée dans la pluie, si l'on en croit les prédictions du moins. Donc un parapluie est recommandé demain matin en se rendant au travail, et en attendant je vous souhaite une excellente soirée à tous.